Bonjour à tous nos auditeurs, je m'appelle Hugo Antaki et je vous accueille dans un nouveau numéro de portrait de femmes engagées au service des libertés. Donc mon sujet aujourd'hui c'est le mariage forcé, plus précisément le mariage précoce. Donc c'est quoi? Donc déjà ça se passe principalement aux filles. Et ce qui se passe à ces filles c'est qu'elles n'ont plus d'avenir, de liberté ni de santé. Et ça, de temps en temps ça peut décliner rapidement. Elles sont aussi principalement abusées sexuellement et de temps en temps peuvent être mutilées, mais cela c'est pour un autre numéro. Donc peuvent être mutilées. Elles ont des enfants de temps en temps, mais elles n'ont pas demandé de les avoir et elles sont forcées à s'en occuper. De temps en temps, le mari qu'elles ont ne sont inconnus parce qu'il est choisi par la famille. Donc les pays qui font le plus ces mariages forcés, ou en tout cas où le peuple le fait le plus, c'est Tchad, Niger, le centre de l'Afrique et Bangladesh. Donc 73% des filles sont mariées en estimation dans tous ces pays. Qui est en dessous de 18 ans. C'est égal à environ 15 millions de filles, dont 27% d'entre elles sont entre 12 et 14 ans. Dans ces 73% de filles, 63% d'entre elles n'auront plus d'éducation. Le pire dans tout cela, c'est que dans ces pays, ça peut être illégal. Par exemple, en Inde, ça l'est depuis 1929. Au Niger aussi. Et pourtant, ces pays le font énormément. Les raisons peuvent être le fait que ça vient du livre sacré. Mais aussi principalement parce que la police n'est pas bien étendue et donc c'est généralement les communautés isolées qui le font le plus et la police ne peut rien en faire. Donc maintenant je vais vous présenter un extrait musical qui pourrait représenter cela. Ça s'appelle We Are Girls Not Brides. C'est fait de des filles en Zanzibie qui se battent contre cela. Maintenant, je vais vous présenter 4 portraits de femmes qui se battent constamment contre cela. La première s'appelle Radha Rami Sakhar. Elle a 21 ans. Elle se bat contre le mariage des mineurs au Bangladesh. Elle est partie en France et elle est maintenant ambassadrice des droits des femmes et des femmes au Bangladesh. Elle fait cela parce que quand elle avait 14 ans, c'était une fille c'était une famille de 4 sœurs, Noël. Et elle était forcée à marier aussi, mais elle s'est échappée. Elle est venue en France. Donc maintenant, elle part en Bangladesh et essaye d'éduquer la population sur cela. Notre prochaine femme s'appelle Raki Ikaim. C'est une Nigérienne et musulmane. Elle est activiste et milite contre les droits des femmes. Et elle essaye de sauver certains enfants de cette situation-là. Après, nous avons Suzanne, une 17 ans. Elle revendique contre le mariage précoce au Nigeria. Et avec ses amis, elle essaye de faire une pétition pour empêcher cela. Finalement, on a une Française, Stéphanie Sinclair. Elle est photographe et elle a publié en 2011 les photos d'enfants forcés à marier sur National Geographic. En 2012, elle fonde l'ONG qu'elle surnomme Too Young to Wed. Elle se bat constamment contre le mariage précoce et essaye d'éduquer non seulement les maris et les personnes dans les pays, mais aussi les personnes à l'extérieur sur ces situations horribles. Donc qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? En conclusion, notre situation est terrible. C'est un combat qui est loin de fini. Mais on a toujours des femmes qui se battent contre cela. Notre leçon, c'est que vous pouvez aussi faire quelque chose. Par exemple, Suzanne, elle n'est pas très connue, mais elle se bat quand même. Elle est toujours là et elle fait tout à son échelle. Donc tout le monde peut faire quelque chose à son échelle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous souhaite une bonne journée.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui sur l'émission Web Radio, portrait des femmes engagées au service des libertés, Zayn, Myriam et moi allons vous présenter un épisode spécial sur les femmes ayant défendu les droits de la communauté LGBTQ+.
Nous allons maintenant vous présenter le sujet, notamment la situation actuelle à l'échelle mondiale et une présentation d'un extrait musical. Je vais commencer par vous présenter la situation actuelle à l'échelle mondiale. Les droits des personnes LGBT dans le monde varient selon les droits nationaux. Certains pays autorisent le mariage entre personnes du même sexe, alors qu'à l'inverse, certains condamnent la pratique de relations homosexuelles, avec des sanctions allant jusqu'à la peine de mort. En effet, on observe une grande différence de l'acceptation des personnes LGBT partout dans le monde. 71 États et territoires pénalisent les personnes LGBT par de la prison, de la torture, la peine de mort ou des travaux forcés. À l'inverse, d'autres pays n'ont jamais connu aucune loi pénalisant l'homosexualité. Mais petit à petit, on observe un progrès dans de nombreux pays qui ont par le passé pénalisé les relations homosexuelles et les ont par la suite décriminalisées, puis adopté des législations protégeant leurs citoyens des discriminations en fonction de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. 28 pays et quelques territoires ont légalisé le mariage des couples homosexuels sur la totalité de leur territoire. Mais dans la majorité des cas, les pays d'Afrique sont ceux qui n'accordent pas de droits LGBT. Parlons alors du pays où nous sommes, l'Égypte. En Égypte, les droits LGBT sont marqués par l'absence de reconnaissance de l'homosexualité de la part de l'administration au pouvoir dans ce pays. Les relations homosexuelles sont couvertes par la législation générale qui gouverne la moralité publique. Au XXIe siècle, cette législation a été le sujet d'une interprétation plus stricte. Quelle est la situation des LGBT en Égypte ? Tout d'abord, l'homosexualité est illégale, sous peine d'amende, 17 ans de prison ou d'exécution d'autodéfense. De fait, tous les droits qui les concernent sont aussi interdits, c'est-à-dire l'union civile pour les couples homosexuels, le mariage homosexuel, l'adoption par des couples homosexuels. Ils ne sont pas autorisés à participer à l'armée et la législation sur l'identité de genre est aussi interdite. Il n'existe aucune protection contre tout type de discrimination. L'Égypte a une approche conservatrice en ce qui concerne les droits de ses minorités. On ne note actuellement aucun signe d'assouplissement dans la législation.
Maintenant, nous allons vous présenter les extraits musicaux choisis pour illustrer ce sujet. Tout d'abord, nous avons, comme ils disent, une chanson écrite, composée et interprétée par Charles Aznavour, qui aborde le thème de l'homosexualité et le tabou qu'elle constitue dans le début des années 1970. Contrairement aux quelques chansons de l'époque qui traitent de ce sujet, Charles Aznavour est le premier à décrire l'histoire d'un homme sans détour ni sarcasme.
Nul n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger. Et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homo, comme il dit.
Ensuite, nous avons la chanson True Colors, qui est écrite et composée par Billy Steinberg et Tom Kelly, pour être interprétée par la suite par Cyndi Lauper. Cette chanson est devenue un standard pour la communauté LGBTQ+. Quelques années plus tard, Lauper cofonde une organisation afin d'aider les jeunes LGBTQ+, sans abri, et lui donne pour nom le titre de cette chanson.
If this world makes you crazy, you take it or you can bear, you call me.
Nous allons maintenant vous présenter 4 portraits de femmes engagées au service des libertés qui ont défendu la communauté LGBT par leurs actions. Je vais commencer par vous présenter Sia. Sia est une chanteuse, compositrice, comédienne et réalisatrice australienne. Son nom complet est Sia Kate Isobel Furler. Elle est née le 18 décembre 1975 à Adélaïde, en Australie du Sud, et elle a actuellement 44 ans. En 2009, elle a déclaré lors d'une interview « J'ai toujours fréquenté des garçons et des filles et tout ce qui se trouve entre les deux. Je me fiche de votre sexe. C'est à propos des gens. J'ai toujours été, flexible est le mot que j'utiliserai. » Sia s'est ensuite identifiée comme queer sur Twitter en 2013. Depuis longtemps, elle défend les droits LGBT par plusieurs actions. Par exemple, après avoir fait une collaboration avec le chanteur Eminem pour écrire la chanson « Beautiful Pain », elle décide de placer les fonds récoltés qui seront versés au Los Angeles Gay et Lesbian Center. Elle a alors utilisé cet argent pour permettre la construction d'un centre d'accueil pour les jeunes sans-abri LGBT, ainsi que l'acquisition de vêtements et de nourriture et la mise en place d'une aide à l'emploi et de services de soins. Elle a également créé de nombreuses chansons pour montrer son soutien à la communauté, comme la chanson « The Greatest » qui évoque le sujet de l'émancipation de soi, un thème qui va être renforcé par de multiples allusions à la tristement célèbre fusillade d'une boîte de nuit LGBT à Orlando, qui a eu lieu en juin 2007. Ou encore la chanson « Together » qui a été créée pour la LGBT Pride.
Maintenant, nous allons passer à Cyndi Lauper. Je cite « Je suis une musicienne, j'ai une voix. Certains disent que j'ai une grande gueule, j'appelle ça un don. Laissez-moi utiliser mon don pour faire une différence pour la communauté que j'aime. » Cyndi Lauper est une chanteuse, compositrice, actrice et activiste américaine dont la carrière dure depuis plus de 40 ans. Elle est connue pour son album She's So Unusual, qui a été le premier album d'une artiste féminine à atteindre les 4 premières places du Billboard Hot 100, avec ses chansons phares Girls Just Wanna Have Fun, Time After Time, etc. Non seulement son style flamboyant et coloré et sa collection de classiques de la pop résonnent avec la communauté LGBT, mais elle a dédié sa carrière à l'égalité. En 2007, Lauper prend part au True Colors Tour, qui lui a ouvert les yeux. Elle s'est rendue compte que plus de 40% des 1,6 million de jeunes sans-abri font partie de la communauté LGBT. Quelques années plus tard, elle fonde True Colors United, une organisation qui porte le nom de sa chanson, qui a pour but l'éducation de la population sur le sujet des LGBT et aide également à mettre fin à l'itinérance des jeunes qui font partie de cette communauté, en créant une résidence à New York pour eux, qui offre un abri temporaire et une aide pour travailler. Elle dit « C'était difficile pour moi lorsque je grandissais, et je suis hétéro. J'avais des haters, mais personne ne me disait que j'étais totalement défectueux parce que mon orientation sexuelle ou mon identité de genre ne répondait pas à leurs attentes. Je pense que le plus gros problème auquel sont confrontés les jeunes LGBT, c'est le fait qu'on leur dise qu'il n'est pas normal, qu'ils soient qui ils sont vraiment. Ce genre de rejet ne fait pas seulement mal à l'intérieur, il met en péril votre bien-être », dit la chanteuse. Maintenant, nous allons passer à Lily Elbe. Lily Elbe était une peintre danoise transgenre qui a été parmi les tout premiers bénéficiaires documentés d'une chirurgie de changement de sexe. Après avoir épousé Gerda Gottlieb, Elbe a découvert sa véritable identité de genre et a commencé à vivre en tant que femme. Après avoir subi 4 interventions chirurgicales risquées pour transformer son corps d'homme en femme, Elbe est décédée de complications post-opératoires en Allemagne. L'histoire de sa vie a été transformée en 2 livres, Man into Woman et le best-seller international The Danish Girl, ainsi que le film de 2015 du même nom avec Eddie Redmayne. Elbe a médiatisé les opérations de changement de sexe et a donc aidé à cette communauté.
En conclusion, les droits des LGBTQ+, sont de plus en plus entendus et acceptés par la nouvelle génération. Cependant, cela reste tout de même un sujet très sensible dans de nombreux pays et la discrimination continue. Merci, cher public, d'avoir écouté avec attention notre épisode sur la défense des droits LGBTQ+. On vous souhaite une excellente journée et à bientôt sur Portrait des femmes engagées au service de la liberté. Enfin.
Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Bichet.
Et moi, c'est Chérine Aminé.
Et nous allons vous présenter notre travail interprétant notre sujet principal étant le portrait des femmes engagées au service des libertés.
Aujourd'hui, nous allons donc évoquer un sujet de la plus haute importance, souvent négligé, étant l'avortement généralement illégal des femmes à travers le monde entier.
L'avortement est un sujet souvent évoqué, mais pas assez entendu. Lorsqu'une femme se retrouve enceinte, sans moyen ni domicile fixe, la question de l'avortement apparaît souvent à l'esprit, non seulement pour ces raisons précédentes, mais ainsi dans le cas où une grossesse peut causer de graves problèmes médicaux, conduits par le viol ou pire, mettre fin à une vie. C'est pour cela que nous croyons sincèrement que l'avortement non seulement devrait être un choix, mais aussi être légal, afin d'assurer la sécurité et la protection des femmes à travers le monde entier. Certains pays sont en zone rouge et interdisent sous toutes circonstances l'avortement. D'autres sont jaunes et le permettent uniquement en cas de danger, de mort pour la mère, de viol ou prématuration de l'enfant.
Bien sûr, les zones vertes où l'avortement est totalement permis existent, mais ne sont pas assez nombreuses dans le monde. En Europe, jusqu'à aujourd'hui, la Pologne interdit l'avortement, ce qui cause plusieurs manifestations violentes au sein du pays. En tout, 49% des avortements sont clandestins et causent la mort de 47 000 femmes par année.
Nous avons aujourd'hui choisi un extrait musical de la chanson « Sekira Semata » de la fameuse chanteuse Shakira. Cette chanson décrit l'histoire d'un jeune couple, Braulio et Dana, ayant eu des relations sexuelles qui ont mené à la grossesse de cette dernière. Ils ont décidé de l'annoncer à personne et d'avorter. Malheureusement, après une tentative, la vie de Dana a été prise.
Ce qui est émouvant dans la chanson, et ce que la chanteuse a voulu démontrer, c'est que le couple a voulu cacher à leurs parents leur grossesse et Dana a dû donc faire un avortement, ce qui est la triste réalité dans laquelle nous vivions aujourd'hui.
Solo te irás. donde lo que no se quiere se mata.
Pour notre premier portrait, nous parlerons de Simone Veil. Simone Veil, née en France, est l'une des seules survivantes de la déportation de toute sa famille dans le camp nazi Auschwitz. Elle a fait des études de droit et de sciences politiques pour ensuite être nommée plusieurs fois ministre de la Santé. Elle réussit plus tard à instaurer la loi de l'interruption volontaire de la grossesse en France le 17 janvier 1975, dite également la loi Veil. Elle arrive à faciliter après cela création de centres autonomes, prise en charge par la sécurité sociale, suppression de consentement parental pour les mineurs, allongement du délai légal, accès à l'avortement médicalement en ville. Elle est morte le 30 juin 2017, mais restera à tout jamais l'icône de la lutte pour les droits des femmes.
Ensuite, nous allons parler de Gisèle Halimi. Donc Gisèle Halimi était une avocate française tunisienne qui a défendu des militants FLN pendant la guerre d'Algérie, s'est battue pour la libéralisation de l'avortement et la criminalisation du viol. L'avocate a également réussi à marquer l'histoire grâce au procès Bobigny. En 1972, Marie-Claire, une jeune lycéenne âgée de 16 ans, a été violée par un élève de son école et tombe enceinte peu après. Elle décide donc d'avorter ayant l'aide de sa mère et de deux amis. L'adolescente est ensuite inculpée pour avortement et sa mère accusée de complicité. Gisèle Halimi a donc accepté de représenter Marie-Claire au procès de Bobigny. Elle en fait le symbole d'une législation française et explique dans son livre « La cause des femmes » qu'une femme devrait avoir le choix de décider de son corps sans être pénalisée. Elle a consacré sa vie à la cause des femmes et au droit à l'avortement et était l'une des signataires du célèbre manifeste des 343 femmes disant publiquement avoir avorté. Elle est décédée récemment, le 28 juillet 2020, à Paris.
Maintenant, nous allons vous parler de Catherine Deneuve. Catherine Deneuve est une actrice française très connue, née en 1943. Elle est douée et reconnue pour son talent dans le cinéma français, mais c'est aussi l'une des femmes ayant signé le manifeste des 343 salopes.
En parlant de cinéma français, Julie Gayet est née en 1972 et s'engage pour les droits des femmes en dénonçant notamment les inégalités femmes-hommes que l'industrie du cinéma laisse subsister. Elle est impliquée dans la campagne « Maintenant on agit » qui vise à soutenir les associations venant en aide aux femmes victimes de violences, comme les vols menant à une grossesse non désirée par exemple.
Nous pouvons donc en conclure que ceci est un sujet qu'il faudrait aborder davantage afin de pouvoir légaliser l'avortement dans divers endroits du monde.
Et que même si ce dernier n'est pas permis, les femmes vont quand même mettre leur vie en jeu et avorter dans des environnements à très basse hygiène ou même non existantes. Merci pour votre attention.
Et nous espérons vous revoir très vite. À très bientôt.
Bonjour tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle émission des portraits des femmes engagées au service des libertés.
Aujourd'hui, nous allons parler de la mutilation génitale féminine.
Dis-moi, c'est quoi la mutilation génitale féminine ?
Les mutilations génitales féminines sont des interventions visant à modifier ou à endommager les parties génitales d'une femme ou d'une fille sans raison médicale. Il s'agit le plus souvent d'une ablation totale ou partielle des organes génitaux externes. Les mutilations génitales féminines constituent une violation des droits fondamentaux des filles et des femmes.
Et pourquoi ces mutilations existent-elles ?
Dans de nombreux pays ayant recours à cette pratique, les mutilations génitales féminines constituent une norme sociale profondément ancrée qui trouve son origine dans l'inégalité du genre et qui incite la société à accepter les violences envers les filles et les femmes. Les motifs de cette pratique sont multiples. Dans certains cas, il s'agit d'un rite de passage vers la féminité, dans d'autres, d'une tentative pour réprimer la sexualité féminine. De nombreuses communautés pratiquent les mutilations génitales féminines parce qu'elles sont convaincues que celles-ci permettront aux filles de faire un bon mariage ou de préserver l'honneur de la famille. Certaines l'associent à des croyances religieuses, même si aucun texte sacré ne prône une telle pratique.
Il existe plusieurs types de mutilation. La plus commune et répandue est l'excision. C'est l'ablation partielle ou totale du clitoris, qui est l'organe dédié au plaisir chez les femmes, et aussi l'ablation des petites lèvres. Ce sujet est sensible et longtemps tabou malgré les 65 millions de femmes excisées dans le monde et qui souffrent d'une douleur qui persiste toute leur vie.
Quelle est la situation actuelle ici en Égypte ?
Ici en Égypte, l'immense majorité des femmes chrétiennes et musulmanes sont excisées malgré l'interdiction officielle depuis 1997.
L'immense majorité?
Oui, 80% des femmes sont excisées en Égypte, mais aussi au Soudan, en Érythrée, Djibouti, Somalie, Mali, Guinée et la Sierra Leone.
Pendant la conférence internationale sur la population et le développement du Caire en 1994, le président Moubarak dit qu'il n'était pas au courant que 90% des femmes sont excisées, dont des coptes.
Cela est très dangereux car ça n'a pas uniquement des conséquences physiques mais aussi psychologiques à long terme. Cette pratique peut entraîner des complications médicales telles que des douleurs intenses, des hémorragies prolongées, des infections ou l'infertilité, des complications lors de l'accouchement et même elle peut provoquer des décès. Elle peut également accroître les risques de transmission du VIH. Les filles risquent aussi de ne plus faire confiance aux personnes qui s'occupent d'elles ou d'être en proie à des sentiments d'anxiété et de dépression tout au long de leur vie adulte.
Nous allons maintenant présenter un extrait musical, FGM de Guy Adegbalola, une chanson qui aborde la mutilation génitale féminine.
I'll fight till the death of me, sacrifice the life of me, but I won't let you take a woman's joy. I'll wrap myself in a bomb for it, disguise and deploy myself for it, but I won't let you take a woman's joy.
Nous allons parler maintenant de trois femmes qui portent des cicatrices physiques et mentales qui ont décidé d'en parler publiquement et de traiter ce sujet très sensible pour aider les filles qui ont vécu cela.
Notre première femme est Frédérique Marx. Elle est cofondatrice avec le Dr Fold et directrice de l'Institut en santé génésique, centre pilote de prise en charge de tout type de violences faites aux femmes. Elle participe à des colloques nationaux et internationaux sur le thème des femmes et de tout type de violence et sur l'excision dans une approche pluridisciplinaire. Frédérique Marx dirige une équipe pluridisciplinaire de 25 professionnels, médecins, infirmières, juristes, psychologues, qui a pour objectif la prise en charge globale, commençant toujours par une écoute active et bienveillante des femmes venant d'horizons, de cultures, de traditions et de religions très diverses.
Notre deuxième femme s'appelle Waris Diré. Elle est née en 1965 en Somalie, qui est un des pays les plus pauvres du monde, situé dans la corne est de l'Afrique. Elle est une écrivaine, ancienne mannequin et actrice. Elle a été, durant plusieurs années, ambassadrice de l'ONU, chargée de questions des mutilations sexuelles. Waris, excisée à l'âge de 5 ans selon la tradition, n'a que 13 ans lorsqu'elle décide de s'enfuir, de quitter ses parents, afin d'échapper à un mariage forcé. Après une dangereuse cavale dans le désert somalien, elle rejoint Mogadiscio, la capitale de la Somalie, puis Londres où elle devient une domestique. C'est alors qu'elle est remarquée par un photographe de mode et que va démarrer sa prodigieuse carrière de mannequin. Avec émotion et sincérité, Waris Diré raconte les détails de son étonnante histoire, évoquant sans détour les difficultés rencontrées tout au long de cette aventure. Fleur du désert, un film inspiré de sa vie, sorti en 2009, est la troublante confession d'une femme hors du commun.
Notre troisième et dernière femme s'appelle Nawale Saadawi. Nawale Saadawi est une écrivaine, médecin, psychiatre et militante des droits des femmes qui a elle-même vécu l'oppression en Égypte. Elle a fait campagne vigoureusement pour des droits des femmes dans le monde arabe et a été emprisonnée pour son activisme. Elle a été forcée de subir l'excision lorsqu'elle était jeune fille, sans avertissement ni explication, et souligne que la violence masculine contre les femmes au sein de la famille est courante dans de nombreuses cultures arabes. Les jeunes femmes sont souvent victimes de violences de la part de leur père, oncle ou frère. En plus, les femmes sont également victimes de la prostitution forcée et de l'esclavage, ce qui constitue une preuve supplémentaire de la domination patriarcale des hommes arabes sur les femmes arabes.
Donc, pour conclure, nous avons choisi ce sujet parce que nous avons senti que beaucoup de personnes, même les plus éduquées, ne sont pas au courant de ce crime et que c'est souvent un sujet tabou. Nous espérons vous avoir sensibilisé à cela et encouragé à vous engager.
Merci de nous vous avoir écoutés. Au revoir.
Bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle émission des portraits de femmes engagées au service des libertés. Avec vous aujourd'hui sont Michael Farag
et Faris Gayad.
Et nous sommes ravis de vous avoir accueillis. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est celui du mariage forcé. Le mariage forcé est le fait de marier une personne contre sa volonté Il s'agit d'un mariage arrangé où la famille impose le mariage à un enfant. Ces mariages touchent principalement les filles. Cela présente un très grand problème dans le monde, car chaque année, plus de 12 000 filles sont mariées de force, parfois dès l'âge de 8 ans. C'est encore incroyable ça. Ces filles voient alors leur liberté, leur droit à l'enfance et à l'éducation volée, et elles sont plus susceptibles de devenir victimes de violences domestiques. Malgré une baisse mondiale non négligeable des mariages d'enfants, des filles de plus en plus jeunes continuent à être unies à des hommes plus âgés, dans des pays où les contextes religieux et traditionnels l'emportent sur la loi. Les pays avec le taux de mariage d'enfants le plus élevé sont le Niger avec 76%, la République centrafricaine avec 68% et Tchad avec 67%. Ce sont surtout des pays qui ne sont pas très développés, alors que dans les pays plus développés comme certains pays européens, par exemple la France ou l'Angleterre, il est illégal de forcer quelqu'un à un mariage, et de même pour des pays comme le Canada. Le mariage forcé est aussi reconnu par les Nations Unies comme une violation des droits de l'homme. Maintenant, on va écouter un extrait d'une chanson appelée « We are girls, not brides » écrite par un groupe de filles zambiennes afin de lutter contre le mariage forcé. C'est une très belle chanson, tu ne penses pas, Faris?
Oui, Michael, on sent que ces filles veulent vraiment lutter contre ce problème et que c'est quelque chose d'important pour elles. Ce qui nous amène au sujet suivant, les portraits des femmes engagées. On peut prendre comme exemple Suzanne Nogbon. Elle est une militante sud-africaine qui travaillait sur les droits de femmes rurales. Elle a été fondatrice du mouvement des femmes rurales, ou MFR, qui compte plus de 50 000 membres à travers du KwaZulu-Natal, qui est une province sud-africaine. Le mouvement travaille à la fois au niveau local et au niveau politique sur des questions telles que l'accès des femmes aux droits financiers, la fin de la violence sexiste, la promotion de la souveraineté alimentaire, la promotion des communautés rurales saines et démocratiques. Mais l'un des mouvements les plus importants, c'est celle de la mariage forcé et le mariage d'enfants en Afrique du Sud. Suzanne Nogbon a été reconnue pour son travail tant que femme de distinction et finaliste en 2020 pour le prix Martin Agnels. On peut aussi prendre par exemple Nada El-Ahdal, née le 3 mars en 2003, est une militante des droits humains et résidente du Yémen, connue pour avoir échappé deux pactes de mariage d'enfants que ses parents avaient conclus pour elle. En 2013, El-Ahdal a publié un vidéo YouTube dénonçant le mariage des enfants et le fait qu'elle a été contrainte de contracter mariage, ce qui est rapidement devenu viral et a incité à couvrir la pratique continue du mariage des enfants au Yémen. On peut aussi parler de Eugenia Lopez Uribe. Elle est une féministe qui travaille depuis plus de 20 ans sur les droits sexuels et reproductifs des femmes et des jeunes dans les zones rurales et urbaines marginalisées. Elle est titulaire d'une maîtrise en études sociales et politiques de l'Université nationale. Elle a travaillé avec différentes institutions du ministère de la Santé, des académies et des agences internationales. Eugenia faisait partie des groupes de financement et de défenseurs d'avortement et de la jeunesse appelés Décédir et a fondé le comité de la jeunesse. Elle est actuellement directrice exécutive de l'organisation mexicaine des droits des femmes.
Enfin, je vais vous présenter Anani Rida, qui est une femme libanaise et professeure assistante à la faculté de santé publique de l'université libanaise. Madame Anani a publié un certain nombre d'études et d'articles sur les abus sexuels des enfants au Liban et dans la région. En 2008, Madame Anani a reçu le prix d'excellence en enseignement collaboratif de l'Université américaine de Beyrouth. En juin 2011, elle a fondé et continue de gérer un mouvement pour l'égalité des sexes au Moyen-Orient appelé ABAAD. En 2014, Madame Anani a été sélectionnée pour l'École des femmes en diplomatie par la société italienne pour les organisations internationales et le gouvernement italien. Et la même année, elle a reçu le prix de Women Leadership Achievement Award. Anani a mené un certain nombre de campagnes d'opinion publique, notamment la dernière campagne nationale Hashtag Undress 522, appelant à l'abolition de l'article 522 du code pénal libanais qui ne devrait vraiment pas exister. C'est un article qui permet à un homme d'éviter la punition pour viol s'il produit un contrat de mariage valide avec la victime. Et en 2018, Anania a été répertoriée par la Banque mondiale comme l'une des 10 femmes entrepreneurs inspirantes qui font une différence dans la région. Ceci conclut donc la section d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté et passez une bonne journée.
Merci.